dans les présentations qui est sous-jacente toujours, mais qui moi me paraît très importante, c'est qu'il me semble qu'à l'heure actuelle, on peut difficilement délier la notion des communs, en tout cas les pratiques des communs, de la notion de résistance contre l'ordre néolibéral. Et que ça me fait rebondir sur une des limites que tu as posées de certaines initiatives telles la Louve qui tombe un peu dans l'entre-soi. C'est que moi, ça me pose une question qui est celle de, d'une part, de, j'ai l'impression être un peu une tentation de faire tomber toutes les initiatives qui ont lieu avec le collectif et la mutualisation dans les communs, ce qui me paraît moi être un peu excessif. J'ai l'impression qu'en fait, les communs, c'est quelque chose d'assez assez spécifique et que tout ce qui est de l'ordre du collectif n'est pas forcément de l'ordre des communs. Et que je crois que la question de l'entre-soi, elle peut aussi être lorsque, justement, les communs ne sont pas de l'ordre de la résistance, mais juste de quelque chose de mieux s'organiser pour être plus confortable. Ce qui, à mon avis, n'est pas l'idée. Et que, par exemple, tu parlais de la PH. La PH, c'est pas juste de la mutualisation de connaissances, c'est aussi des pratiques fortes de résistance où il y a des gens qui s'organisent ensemble pour aller lutter contre les huissiers qui viennent expulser, qui font la réquisition d'appartements. Et je pense que c'est très important de pas obscurcir cette dimension-là, parce qu'elle me semble absolument clé si on veut vraiment pouvoir penser à la fois les communs à venir et ceux qui ont la capacité de tenir les communs dans les communautés autochtones auxquelles on fait référence. C'est toujours des communs en but.
Merci beaucoup. C'est une question très, finalement très pratique. J'habite dans le 18e. Bon, je suis censé être quelqu'un de relativement informé. Et c'est vrai que j'ai découvert énormément de choses que j'ignorais totalement dans mon quartier, puisque j'habite le marché de l'Olive, voilà. Donc ma question, c'est un petit peu, effectivement, vous avez parlé de l'engagement, alors, il y a différentes formes d'engagement. Ma question, c'est la visibilité de toutes ces actions, j'allais dire, auprès des habitats lambda. Enfin, je suis persuadé que si je faisais comme ça une petite enquête dans mon immeuble, toutes les initiatives dont vous avez parlé, il y a quelques initiatives que les uns et les autres connaissent, les jardins partagés, etc. Mais l'ensemble, parler de coordination, l'ensemble de ces initiatives qui se passent dans ce quartier, elles sont extrêmement nombreuses. Et je dirais, il y a une profonde ignorance. On connaît ce qui existe à proximité de chez nous, quoi. Proximité d'une rue, de deux ou trois rues. Mais bon, voilà. Donc c'est une question sur comment rendre ces actions visibles auprès de gens qui ne sont pas spécialement militants ou engagés.
Alors, j'ai plein de questions, mais la plus importante, en fait, c'est que toutes les constructions politiques dont on parle dans le commun supposent la plupart du temps, finalement, que l'homme ordinaire, justement, soit un héros. C'est un héros qui s'engage, qui milite, qui a des opinions, etc., etc. Et là, je suis en train de lire un livre de Nina Eliasoff sur l'évitement du politique et qui montre que finalement, on n'est pas tous des héros et qu'il y a une construction justement de l'anti-héroïsme par les sociétés actuelles. Et que, par exemple, si on parle de service public plutôt que d'État, le service public, il n'a pas été inventé justement sur l'idée qu'on est tous des héros, tous des citoyens engagés, tous, mais que la puissance publique a aussi pour fonction de compenser justement ce relâchement, et que finalement toutes nos sociétés doivent aussi permettre le relâchement et ne doivent pas finalement reposer sur une injonction à l'héroïsme quotidien de tout un chacun pour qu'une institution fonctionne. Et donc j'aurais aimé qu'on peut-être questionner cette dimension-là. La deuxième chose, c'est sur la différence entre règles et frontières, avec l'idée que les communs reposeraient plus sur les règles que sur les frontières, et avec l'idée qu'effectivement, le grand atout des règles, c'est que justement, elles sont le produit des collectifs qui les pratiquent. On voit bien aussi les limites de ce type de raisonnement, puisque finalement, ce qui est commun un jour peut ne plus l'être un autre, pour autant porter le même nom, et que finalement, cette question de l'auto-engendrement des règles peut produire des communs de type moyenâgeux, et que, disons, le droit d'entrée peut être imposé, mais il peut être tout à fait tacite, et l'exemple de la Louve en est le modèle. D'accord ? C'est-à-dire que finalement, on n'interdit à personne d'être adhérent à la Louve. Or, l'entre-soi qui existe au sein de la Louve produit un entre-soi qui s'auto-engendre. Donc finalement, les règles peuvent être de simples conventions et exclure de fait des publics qui ne peuvent plus participer au commun.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec la remarque qui a été faite sur la conflictualité, le fait que ça se construit dans la résistance, que ce n'est pas destiné uniquement à améliorer le confort de vie d'un certain nombre de gens à une échelle plus ou moins réduite. Et je crois que c'est assez important à rappeler, parce qu'on a quand même une double logique, qui est la logique de l'État et du marché, qui est une logique à laquelle il faut faire face, et qui est une logique qui est une logique d'empiètement systématique, qui est une logique de réduction de toutes les logiques à la logique de la propriété, parce que l'État est animé lui-même par une logique propriétaire, c'est pas du tout un instrument neutre, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, et par conséquent les véritables communs doivent être, comment dirais-je, ils sont souvent caractérisés par une puissance de transformation politique des acteurs eux-mêmes. Et ça me paraît tout à fait fondamental. C'est pas du tout justement une façon de vivre en vase clos et puis d'expérimenter les formes de vie parce que c'est intéressant, parce que c'est à côté, parce que c'est parallèle, parce que c'est dans les marges. Mais ça doit aboutir justement à des choses qui sont tout à fait concrètes. Et la transformation, hein, ça c'est pas du tout l'héroïsme justement, c'est exactement l'inverse, la transformation des hommes par les pratiques. C'est ce que les communs, le véritable commun, doivent expérimenter. C'est ce qui se passe justement quand on parlait des peuples autochtones, c'est la même chose. Et ça me permet de revenir à la question qui m'a été posée, à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'il y avait un contraste entre la première et la deuxième partie de l'exposé. D'un certain point de vue, c'était voulu. Parce que je suis assez réticent à toute tentative de construction d'institutions à l'échelle mondiale qui procède par le haut, c'est-à-dire à partir de la proposition émise par un centre qui consiste à dire, voilà, vous avez des règles, vous devez les suivre, et puis les autres, eh bien, aller voir ailleurs, ou je ne sais trop quoi. Il faut se méfier de ça, d'imposition par le haut. Je crois que beaucoup de gens maintenant sont vaccinés contre ça, c'est plutôt par le bas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas négliger, le cas échéant, d'utiliser, quand on le peut, l'espace donné par les institutions, qui sont des institutions très officielles, comme par exemple l'Organisation des Nations Unies. J'en donne un exemple, c'est pour ça que la question que vous avez posée est assez intéressante. Je ne suis pas pour entrer systématiquement dans ces institutions, par exemple la Commission européenne, ça me semble être d'un intérêt extrêmement réduit, pour ne pas dire plus. C'est plutôt une instance que je vois comme une instance de réglementation par le haut, justement. En général, à la suite d'un débat qui est fort peu démocratique, à supposer qu'on puisse parler de débat. Mais en revanche, je prends un autre exemple, justement les peuples autochtones. Vous avez une bataille qui a été menée depuis les années 1980 par des gens qui ont investi l'espace qui a été créé par les Nations Unies. Au départ, c'est un espace qui est créé par les Nations Unies. Et les gens qui ont investi cet espace se sont voulus des délégués des peuples autochtones, rendant compte à ceux-ci de ce qui se passait, des discussions, etc. Et prenant la balle au bond quand on leur a fait une offre qui était de contribuer à la rédaction, de rédiger eux-mêmes une convention. Cette convention, c'est la convention 169, une convention qui n'a pas été adoptée, comme par hasard, par l'État français, alors que l'État français a adopté la déclaration sur les droits des peuples indigènes, sans aucun problème, parce que vous savez que juridiquement, les déclarations n'engagent à rien, et ne contraignent à rien. En revanche, la convention 169, elle a été signée par quelque chose comme 40 délégués des peuples autochtones, pas plus, mais dedans, il y a des gens de Nouvelle-Calédonie, il y a des gens qui appartiennent aux Amérindiens de Guyane, dont on fait vraiment très peu de cas, y compris lorsqu'il s'agit de raisonner sur le Brésil et l'Amazone et l'Amazonie, alors que d'un certain point de vue, c'est plus que d'un certain point de vue d'ailleurs, ils font partie de cet espace-là. Et donc là, on a une question qui est tout à fait fondamentale. Vous avez des gens qui essaient de combiner, en quelque sorte, les luttes qu'ils mènent sur le terrain, qui sont en général assez résolues, y compris dans le choix des moyens, Et puis d'autre part, le fait d'investir un certain nombre d'espaces pour pouvoir constituer. Alors là, en l'occurrence, la Convention 169, moi je n'hésiterai pas à dire que c'est un commun transnational. C'est pour moi un commun transnational, un vrai commun transnational, avec une façon de saisir la parole, quand on leur a offert la parole, qui est extraordinaire. Irène Bélier, qui est une anthropologue, a montré que justement il y avait un passage en l'espace de quelques années du statut de gens consultés, pour demander quel était leur avis, au statut d'acteur à part entière, parce qu'ils se sont mis à rédiger, à peser sur les termes de certaines déclarations. Voilà, ça me semble être la bonne manière justement de se rapporter à ces institutions-là, certainement pas avec la réflexion qui consiste à dire que l'on entend de la part de certains, bon, c'était le cas des dirigeants de Podemos par exemple en Espagne, il faut investir les institutions pour investir les institutions, parce que ça n'a strictement aucun sens à partir du moment où ça guette, y compris, ça peut guetter Barcelone en commun et d'autres listes municipales, à partir du moment où on perd de vue qu'il y a cette nécessité justement de combiner à la fois les instruments institutionnels qui sont à la disposition des gens qui veulent se battre sur ce terrain-là, et d'autre part, les mobilisations sociales et politiques qui ne doivent jamais être oubliées, parce que si les listes municipales de ce type-là en viennent à oublier qu'elles doivent essentiellement leur succès et leur élection à ces mobilisations, à ce moment-là, c'est plus que la perte d'une âme, c'est la perte de cours, c'est-à-dire la fin de l'existence de ces expérimentations qui est en jeu. Voilà. C'est pour dire que c'est plutôt dans un mouvement de ce type-là que j'envisagerais, en réponse à la question que vous avez posée, l'un et l'autre, plutôt que comment dirais-je, de proposer un projet tout frais, tout ficelé, tout prêt, etc. Je pense que c'est comme ça qu'il faut plutôt essayer de voir les choses. Mais ceci pour dire que la démocratie des communs, pour moi, c'est une démocratie qui est nécessairement conflictuelle. Conflictuelle. Et de deux manières, pour ne pas comme ça, elle est conflictuelle dans les relations avec, par exemple, l'État, les marchés. En tout cas, il doit y avoir une autonomie qui doit être préservée. C'est la prunelle des yeux du commun, si je puis dire. À l'égard du marché et de l'État. Et puis, conflictuel, le terme de conflit, pour moi, n'est pas du tout un terme péjoratif, au contraire. C'est le conflit qui... C'est l'institutionnalisation du conflit qui empêche la dérive vers la guerre. Et donc, conflictuel, ça veut dire qu'y compris de l'intérieur, on doit faire place au conflit, contrairement à certains communs qui veulent fonctionner de manière entièrement consensuelle. On doit savoir accepter, à l'intérieur d'un commun même, qu'il y ait place pour des conflits. Justement, l'accord sur les règles doit permettre justement de faire en sorte que ces conflits puissent être surmontés. Donc c'est pas le refoulement du conflit qui permet de garantir la vie interne du commun, c'est exactement l'inverse. C'est la reconnaissance du conflit et donc l'ouverture de l'espace à la conflictualité qui doit permettre au commun de continuer d'avoir cette puissance de transformation politique. Enfin, en tout cas, c'est ce que je
ferai. Alors, je vais partir de la question sur la visibilité. Je pense que Ce que j'ai raconté sur le 18e, c'est effectivement, enfin, pose très précisément cette question-là. C'est que effectivement, on voit bien que on a dans des territoires comme celui-là, et je pense qu'on est loin d'être le seul, on fait face à cette question-là. Je veux dire que si vous regardez une question qui a défrayé la chronique autour de l'accueil des migrants, par exemple, c'est évident que c'est pas les luttes sociales qui sont mises en avant, c'est plutôt le migrant comme un problème, etc. Enfin, je ne reviens pas là-dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais donc l'enjeu, effectivement, c'est comment est-ce qu'on construit cette visibilité, comment est-ce que... Et je redis ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est on peut, à mon sens, on ne peut pas construire cette visibilité-là si on ne construit pas effectivement un espace d'autonomie politique. Ça, c'est une chose. Et si cet espace d'autonomie politique-là, il ne casse pas l'approche qui consiste à ne reconnaître comme une économie, au sens général du terme, que l'économie légale, marchande ou étatique. Je pense qu'il faut que tous les autres gestes, par exemple de l'hospitalité, soient conçus comme des gestes d'une économie de l'hospitalité. Et que de ce fait-là, on puisse effectivement reconsidérer ou reconstruire une culture commune, partagée dans un territoire qui nous permet de faire commun, effectivement. Donc il y a un continuum entre le politique et le culturel de ce point de vue-là, je pense. D'une certaine manière, sur la question de l'héroïsme ou des formes d'engagement, je pense que c'est... pour moi, il n'y a pas... l'expérience qu'on a, que moi j'ai en tout cas personnellement et que je vois autour de moi, c'est précisément justement une expérience qui vise à mettre de côté cet héroïsme d'une certaine manière. Je vais rester sur le même registre dans le 18e toujours. L'année dernière, on a décidé d'organiser l'anniversaire de la médiathèque Vaclav Havel, qui est un des lieux qui accueille, qui est un lieu donc, de la puissance publique, de la ville, qui accueille effectivement les migrants au jour le jour, dans lequel se déroule tout un ensemble d'activités, et dont on a considéré qu'au fond, c'est un des rares lieux du quartier qui joue réellement son rôle d'espace. D'espace qui remplit cette vocation-là et qui assume complètement cette vocation-là, y compris parfois en opposition avec sa hiérarchie, avec l'appareil administratif et politique qui dans lequel il est encastré. Et donc l'idée là n'était pas de montrer, de faire des héros des bibliothécaires, mais de montrer qu'il y a besoin de reconnaître, il y a besoin de prendre soin de nous-mêmes à travers cette pratique-là, dans ce processus-là. Il ne s'agit pas, de construire une injonction à l'action, mais au contraire de voir comment on peut, d'une certaine manière, comment on peut cheminer vers... une vie meilleure au sens, non pas une vie plus confortable, comme questionnait Isabelle, mais plutôt une vie où on assume effectivement et où on gagne en capacité pour pouvoir faire des choses qu'on pense importantes. Donc, je pense que c'est vraiment... pour moi, ça renforce l'idée que quand on parle des communs, on ne doit pas simplement s'arrêter à l'échange d'une marchandise ou à l'échange d'un service entre des personnes, mais de le regarder comme quelque chose qui s'insère de manière beaucoup plus générale dans un système vivant, d'une certaine manière. Et je trouve que cet exemple, il est assez parlant. Quand on avait... À la même époque, on avait envisagé, par exemple, ça ne s'est jamais fait, mais on avait envisagé d'organiser une rencontre française, nationale, dans laquelle on inviterait en fait tous les gens qui sont engagés dans l'accueil des migrants pour prendre soin des gens, c'est pour offrir un espace de ressourcement, pour offrir un temps dans lequel on peut effectivement... se reconnaître et se reconstruire aussi et retrouver des forces, si vous voulez, d'une certaine manière. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer dans bien des domaines, que ce soit celui des aidants, que ce soit celui des gens qui, finalement, à un moment, prennent soin de nous, au sens général du terme, ont besoin... Et aujourd'hui sont confrontés à une absence quasi totale de reconnaissance, voire même à des oppositions systématiques et forcées. C'est vraiment le cas sur la question de l'accueil des migrants, par exemple, mais c'est le cas aussi, je pense, à des luttes comme les Gilets jaunes, etc. Enfin, on peut trouver des choses comme ça. moi, je crois aussi que... je suis convaincu, comme vient de le dire Pierre, que la question du conflit et la question de faire apparaître le conflit, y compris dans les communs, est extrêmement importante. Elle est importante tout simplement parce que si on ne reconnaît pas qu'à l'intérieur de nos mécanismes de commoning, il y a aussi des rapports de force, il y a aussi des rapports de pouvoir, il y a aussi des rapports de genre, il y a aussi des rapports de classe, etc., je veux dire, on fait effectivement... si on ne fait pas ça, on ne peut pas lutter contre l'élitisme dont je parlais tout à l'heure. C'est que c'est une condition, c'est celle-là, c'est de reconnaître ces rapports-là. C'est de reconnaître, c'est aussi pour ça que je parlais tout à l'heure du rapport à la connaissance, c'est aussi de reconnaître que la connaissance n'est pas seulement celle qui est produite par les leaders, les intellectuels, mais aussi par ceux qui vont être engagés dans l'action quotidienne. Et le travail que fait Léa, par exemple, auprès de certaines communautés, par exemple, est vraiment très, très intéressant de ce point de vue-là, je pense, d'aller voir comment est-ce que les acteurs, dans leur engagement, dans leur pratique d'engagement, en fait, se construisent des savoirs communs, des savoirs collectifs, partagés, se transmettent ces savoirs et font en sorte que ça constitue finalement le maillage du commoning, le maillage de ce qui s'échange, probablement bien plus que l'échange de la marchandise à travers le commun. C'est probablement bien plus que le mécanisme de transfert de telle marchandise ou de tel service entre personnes qui est en réalité, enfin, qui est souvent ce qui est mis en évidence quand on parle des communs. C'est évident que quand on regarde les jardins partagés aujourd'hui, ce qui se passe dans les jardins partagés, c'est pas simplement faire pousser des légumes, c'est bien d'autres choses, et c'est toutes ces questions-là qui sont en jeu. Alors, on peut prendre n'importe quel exemple de commun, à mon avis, c'est la même chose. Après, il y a un deuxième problème que ça pose, c'est les sortes de hiérarchies qui peuvent apparaître entre les communs, c'est-à-dire que, ou entre les domaines dans lesquels il y a des communs. Le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, il y ait une... le libre, la culture du libre, la culture numérique est une sorte d'ombre portée sur tout un ensemble de communs, de pratiques de commoning urbain. C'est quelque chose aussi qu'il faut qu'il faut regarder comme tel et sur lequel il faut probablement se poser un certain nombre de questions. Alors, je finis avec la question d'Isabelle sur la résistance. La question de commentaire plutôt. Moi, je suis tout à fait. Je partage l'idée que on est inscrit dans un projet. Moi, personnellement, je m'inscris dans un projet de transformation sociale et politique, et aussi de lutte contre l'ultralibéralisme. C'est une évidence pour moi. Après, à moi de voir comment je fais avec ça. La question de la résistance ou la question de savoir est-ce qu'on doit considérer qu'il y a des communs qui seraient des communs de confort, des communs qui seraient des communs de résistance, pour moi c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que j'ai donné l'exemple de la Louve, et l'exemple de Cortot tout à l'heure. La Louve apparaît comme d'une certaine manière a une réputation de lieu qui est effectivement enfermé dans son entre-soi, enfin, avec un certain nombre de problèmes, et le fait par exemple que la Louve n'intègre pas de manière systématique le bio, n'intègre pas de manière systématique le local, la production, enfin, la production locale, etc., ça lui donne une image relativement faible du point de vue des luttes sociales. Mais en même temps, je trouve que c'est pas inutile d'avoir des lieux dans lesquels se construise une expérience qui touche au travail, qui est assez intéressante, qui vient changer la tête des gens. Le fait que à la Louve, le principe, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que vous êtes dans une coopérative, vous ne pouvez acheter des produits dans cette coopérative que si vous faites 3 heures de travail par mois, c'est que si vous assumez votre service de 3 heures par mois. Moi, je pense que ça change quand même des choses dans la tête des gens quand ils vont retourner se placer en face de la caissière au supermarché du coin, il y a quand même des choses comme ça qui apportent un certain nombre de choses. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il y a des communs de résistance et il y a des communs de production, d'une certaine manière, certainement. Il y a besoin d'avoir, je rejoins finalement ce que disait Pierre, il y a besoin d'avoir des conflits, il y a besoin de ne pas être d'accord, il y a besoin d'avoir d'un côté les Corteaux, de l'autre côté, ou d'un côté la MAP et de l'autre côté la Louve, et que ces gens-là qu'il puisse y avoir des discussions politiques et que ça puisse être débattu et que ça puisse construire une idée ou une vision de la société qu'on veut à cet endroit-là. Enfin, je dis société, c'est un mot un peu général, mais du quartier qu'on veut et de la façon dont on veut que ça vive et éventuellement de pouvoir confronter les gens sur ces questions-là. Donc ça me paraît aussi important. Le fait de dire que c'est un commun ou que ça n'est pas, si vous reprenez ce que je disais au début, pour moi, ça n'a pas d'importance. Enfin, c'est pas que ça n'a pas d'importance, c'est important, mais je dirais que c'est pas... pour moi, la question n'est pas de savoir si la Louve est un commun ou pas, de savoir qu'est-ce qui est un commun ou qu'est-ce qui n'en est pas, mais c'est qu'est-ce qui fait commun, c'est qu'est-ce qui fait un quartier, ce qui de mon point de vue, est probablement différent.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction fondamentale entre les communs où la participation est vraiment au centre des pratiques, participation au sens très fort du terme, et dès qu'on veut changer d'échelle, aller à des plus petites échelles de gouvernance, la seule solution, il me semble, qu'on a trouvé historiquement, c'est la représentativité, c'est donc de donner du pouvoir à des représentants qui, on le voit, s'éloignent de plus en plus de ceux qui sont censés représenter là. Est-ce qu'il y a une contradiction là pour instaurer une contradiction fondamentale pour instaurer une démocratie globale, une démocratie des communs globaux? Et si oui, comment on pourrait imaginer la dépasser? Est-ce que c'est par des choses comme le translocalisme que vous évoquiez? Il me semble que dans l'exemple que vous avez donné des Fearless Cities, il y a une réunion et donc il y a 80 délégués, donc on est de nouveau dans de la démocratie représentative quelque part. Est-ce que à terme, si ça s'institue, ces délégués ne vont pas s'éloigner de leur base locale et encore une fois le pouvoir s'éloigner des commoners dans cette gouvernance globale des communs?
Merci pour vos exposés, Dominique Tain. J'avais une question, c'était sur tout à l'heure vous parliez partir des pratiques actuelles, à savoir l'inverse du 18e qui consistait à partir de l'idéal et prolonger par l'imagination les pratiques, mais quelle pratique? Parce que est-ce que l'imagination n'est peut-être pas conditionnée par les pratiques? Par exemple, dans les pratiques de continuité, on n'aura peut-être pas la même chose que dans les pratiques de rupture. Alors vous allez peut-être répondre, oui, il faut être dans la rupture. Mais ma question, c'était, vous rejetez un peu de partir d'un idéal pour le gaspillage en énergie que ça entraînait. Mais en partant des pratiques actuelles, est-ce qu'il y a une inertie, une force inertielle à vaincre? Et finalement, est-ce qu'on n'arrivera pas finalement aussi à un gaspillage énorme d'énergie?
Oui, sur la première question, sur la question des délégués. j'ai utilisé justement à dessein le terme de délégué. Je l'ai employé y compris pour les gens de la Convention 169. J'ai parlé de délégué, pas de représentant. Et je crois qu'il faut faire une différence. Alors évidemment, quand on parle de délégation de pouvoir, en général, on fait comme si la délégation de pouvoir et la représentation, c'était exactement la même chose. Mais là, je ne parle même pas de délégation de pouvoir, je parle de délégué, tout simplement. Par exemple, là, pour les Fearless Cities, ce sont des gens qui étaient en effet délégués par leurs conseils municipaux ou leurs gouvernements municipaux, tout dépendait de l'échelle, mais... C'était de ça qu'il était question. Il était hors de question que ces gens-là prennent des décisions pour tout le monde. Ce n'est pas les décisions qui engageaient toutes les mairies ou toutes les municipalités en disant « Voilà, nous avons décidé, ça c'est réinstaurer un centre. » Ça, ça serait exactement, à mon avis, ce qu'il ne faut pas faire. Hein, c'est-à-dire réinstaurer un centre et puis dire « Nous avons un règlement intérieur, vous devez vous y soumettre, etc. » La démarche est totalement différente. La démarche, c'est une démarche qui part des initiatives qui s'effectuent, en général par le bas, à partir du bas, à partir de petites villes, à partir de quartiers, et puis ensuite on se demande comment échanger. C'est pour ça que j'ai parlé de transnationalisation des pratiques, et pas justement de constitution d'un nouveau centre. Il n'y a pas de centre, ça n'avait même pas l'esprit des gens qui étaient dans cette réunion-là d'envisager la constitution d'un centre ou d'un document programmatique qui aurait valeur obligatoire. C'est pas du tout dans leur démarche. Donc ça, il faut bien le comprendre. Même chose pour les délégués des peuples autochtones. Ce sont des gens, je trouve ça remarquable, parce que ce sont des gens qui ont quand même rédigé des textes. On les traitait comme des mineurs. Il faut quand même dire que pendant des décennies, ce sont des gens qui ont été traités comme des mineurs. C'est-à-dire qu'on leur demandait simplement « Est-ce que vous êtes d'accord avec le document qu'on a écrit ?» De telle sorte que vous apposiez votre signature. Et ce que je trouve assez remarquable, là, c'est le fait qu'ils s'emparent de ça pour dire « Non, on va rédiger nous-mêmes. On va écrire nous-mêmes. » Bon, mais ce ne sont pas des représentants au sens où ils n'auraient pas de compte à rendre ensuite, etc. La différence entre les délégués et les représentants, par exemple, chez un auteur comme Castoriadis, c'est que les délégués, justement, ne représentent pas en ce sens qu'ils ne sont pas investis d'un pouvoir de décider à la place. Ce qui veut dire par conséquent que si les gens qui les délèguent ne sont pas contents de ce qu'ils ont fait, ben dehors et puis on remplace. Et ça, évidemment, chez les représentants, c'est assez difficile à concevoir puisque la logique de la représentation... Alors les libéraux n'aiment pas qu'on leur rappelle ça, mais l'un des philosophes qui a été l'un des pionniers de la théorie moderne de la représentation, c'est Hobbes, dans un gros ouvrage qui s'appelle « Le Léviathan ». Et la comparaison qu'il fait, c'est la comparaison avec la relation que l'acteur entretient avec les auteurs. Les représentants sont les acteurs, et puis les représentés autorisent les acteurs à agir et à parler en leur nom. Alors, on n'aime pas ça, parce que il apparaît comme étant furieusement autoritaire, donc les libéraux n'aiment pas du tout qu'on leur rappelle que la théorie de la représentation la plus pure a été élaborée précisément par quelqu'un qui s'appelait Hobbes et qui résonnait exactement en ces termes. Mais ça, c'est la dualité. Ça veut dire qu'il y a une scène, il y a celui qui agit, l'acteur, et il agit et il parle précisément à la place, donc il substitue. La représentation est dans son fond, la représentation politique est dans son fond remplacement ou substitution. Alors ça, non. Ça, c'est très simple. Que ce soit à l'échelle locale ou que ce soit à l'échelle mondiale, ça m'apparaît comme étant totalement, non seulement contre-productif, mais en plus très dangereux. Ouais. Très dangereux, si on part sur cette voie-là. Donc même la démocratie à l'échelle des communs mondiaux, je ne crois pas qu'elle doit sacrifier à la logique de la représentation. De ce point de vue-là, par exemple, je suis en désaccord total avec Latour. Parce que dans Face à Gaïa, il utilise cette notion de représentation, il l'emprunte à Hobbes. Je dis bien, il l'emprunte à Hobbes. Il la tord dans un autre sens, mais il parle de la représentation des non-humains par les humains, dans un chapitre assez important de son livre. Et puis, dans le dernier, il y a des choses qui sont très intéressantes, mais tout à fait à la fin. Alors là, moi, les bras m'en sont tombés, puisque l'exemple qui est donné, c'est celui de la superposition des souverainetés dans l'Union européenne. Alors là, comme exemple d'une démocratie... Moi, non, pas du tout. Et pour le dire d'une façon assez directe, c'est la logique de la souveraineté qui me semble devoir être remise en cause. Et la logique de la représentation ne remet pas du tout en cause la logique de la souveraineté, puisque précisément, les représentants, en remplaçant, sont les véritables souverains, ceux qui décident. C'est au contraire, c'est la consécration de l'hétéronomie, la logique de la souveraineté, la logique de la représentation qui vont très bien ensemble, consacrent justement la perte de l'autonomie dont on parlait d'autonomie politique, et donc ça me semble extrêmement dangereux. Et il faut se rappeler, alors la souveraineté, je sais, je terminerai juste là-dessus, mais je sais que ça peut être pris dans des sens très très différents. Déjà, le fait, comme les gens de Barcelone utilisaient les souverainetés au pluriel, me semble déjà le minimum. C'est-à-dire que la pluralisation du concept de souveraineté fait qu'on n'est pas dans la logique du traité de Westphalie, c'est-à-dire où il y a des États qui sont souverains sur leurs territoires respectifs et qui s'interdisent d'empiéter sur le territoire du voisin, précisément parce que ça contrevient à la règle, etc. Bon, ça, c'est fini. C'est fini, même si pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est pas fini du tout, parce que sur le plan de la politique internationale, les gouvernements raisonnent exactement comme si on était toujours dans ce cadre-là. Et c'est pas uniquement Poutine, Erdogan, etc., et même un sympathique Justin Trudeau et Macron, c'est exactement la même chose de ce point de vue-là. Ils sacrifient complètement la logique de la souveraineté, alors qu'ils prétendent s'en passer ou la dépasser. Mais en fait, le discours de Macron, c'était quand même un discours sur l'Europe souveraine. Donc ça consiste à déplacer la logique de la souveraineté en disant il ne faut pas que ça soit à l'échelle de l'État-nation, mais il faut que ça soit à l'échelle de l'Europe. Mais moi, déplacer la logique de la souveraineté, ça ne me semble pas du tout la solution aux questions de la démocratie. Non, la démocratie, ça implique de rompre avec la logique de la souveraineté. Voilà. Je vous le dis de manière ouverte. Hein. C'est l'histoire même de la notion. C'est superanus, ça vient d'un terme latin qui signifie au-dessus d'eux, supérieur, et ça veut dire pour l'essentiel au-dessus des lois. Au-dessus des lois, c'est l'idée selon laquelle celui qui fait les lois est au-dessus des lois précisément parce qu'il les fait. Voilà. Ça, non. Ça fait partie précisément de ce qui, malheureusement, fait partie de notre héritage, et pas seulement à nous. Beaucoup de peuples dans le monde, c'est aussi le cas. Mais il faut savoir être capable de rompre pratiquement et politiquement et intellectuellement et culturellement avec.
La deuxième chose, oui, bien sûr, il y a des risques, il y a toujours des risques, bien sûr, il y a toujours des risques.
Non, quand je disais gaspillage intellectuel, c'est parce que je me disais que c'était vraiment une perte de temps. Voilà, c'était, bon, donc je ne le prenais pas au mot, c'était une métaphore polémique. Mais en ce qui concerne, alors je ne me souviens plus exactement de votre question, c'était aussi sur les risques de gaspillage, c'est ça?
C'était surtout sur le rôle de l'imagination en fonction des pratiques.
Oui, alors l'imagination, elle est à la fois nourrie par les pratiques et en même temps, elle les nourrit directement. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a une circularité, mais que je pense que le mieux, c'est quand même de voir le rapport entre l'imagination et les pratiques telles qu'elles ont cours. Les pratiques ne peuvent même pas se passer d'imagination de toute façon. Même les pratiques qui consistent à transformer ici et maintenant ont besoin d'imagination. Donc il n'y a pas de... Enfin, je ne vois pas, je ne crois pas qu'il y ait de, comment dirais-je, de précédence, de priorité de l'une par rapport à l'autre. Mais ce que je veux dire simplement, quand je prenais l'exemple du 19e, c'est qu'on construisait un plan détaillé de société parfaite. Ça, c'est fini. Ça me semble fini. C'est tout à fait autre chose. Moi, je ne l'envisage pas, je ne sais même pas ce que c'est. Je peux comprendre, ça fait partie des choses auxquelles je pense, qu'on ait, comment dirais-je, un projet de société des communs. Mais de là à dire ce projet doit donner lieu à l'élaboration d'un plan de société des communs auquel ensuite il faudrait se conformer, non. Il y a une différence, il y a un abîme. Alors que c'était la démarche qui était faite. Il faut se souvenir de ça. Il faut se souvenir de ça. Et même aujourd'hui, quand on se souvient par exemple de gens comme des gens qui étaient un peu plus sympathiques quand même que Étienne Cabet dont j'ai parlé, genre Fourier, justement, ce qui est plus intéressant chez Fourier, c'est que ce sont des gens qui donnent des leçons d'imagination, si on peut parler comme ça. C'est pas, peut-être pas très jésuité comme expression, mais en tout cas, ça me semble préférable à cette espèce d'imagination mortifère et planificatrice, qui est celle d'un Cabet ou celle d'autres utopistes. Parce que alors là, c'était des utopies en plus qui étaient, je reprends le terme, mortifère. C'est-à-dire que c'est une sorte de carcan comme ça qu'on est amené à imaginer et puis on le projette sur les relations sociales et on demande aux relations sociales de s'y conformer. Ça, je pense que c'est fini, là aussi. Les utopies peuvent pas se définir comme ça. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens maintenant parlent d'utopie concrète ou d'utopie réelle. Alors je reprends, il y a quelqu'un qui est mort il y a quelques mois de ça, Eric Erlin Wright, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle L'utopie réelle. Bon, mais justement, où il y a plein de choses très discutables, hein, par exemple, quand il parle de l'universel, tel qu'il a expérimenté dans tel ou tel endroit du monde, etc. Alors là, la puissance de transformation politique des communs semble totalement oubliée. Mais il y a quelque chose, il y a une recherche qui me semble tout à fait intéressante. Quand il parle d'utopie réelle, c'est les utopies qui sont destinées à être expérimentées ici et maintenant. Voilà. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est là que le rôle de l'imagination et le développement des pratiques se fait mutuellement
et que par conséquent on n'est pas amené à établir cette espèce de priorité du plan, parce que c'est quand même le plan, c'est l'imagination planificatrice, l'imagination qui était à la base de beaucoup d'utopies au XIXe siècle. Ça me paraît encore une fois, il faut tourner le dos à ça, il faut rompre complètement avec ça. Ça me semble pas possible. L'utopie réelle, c'est ça qui est intéressant, c'est hic et nunc, ici et maintenant. Et ensuite, on essaie de se demander, mais qu'est-ce que ça pourrait nous donner à voir de l'organisation des relations sociales dans la société à venir. Ça, c'est plus intéressant, à mon avis, de procéder comme ça. Donc là, c'est pas du gaspillage.
Il y a pas peu de choses à rajouter à ce que tu viens de dire, Pierre. Mais j'aurais juste, en fait, j'avais l'impression qu'on pourrait réunir vos deux questions d'une certaine façon, parce que on peut réunir vos deux questions si on casse la frontière qu'il y a entre la représentation qu'on a du politique et la représentation qu'on a de l'action, finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... si on considère que sans politique aussi les moments où on fait, sans politique aussi les moments où on pratique, on peut poser la question de la participation, de la représentation de manière un peu différente. Et que ça, je pense que oui, c'est ça que nous apprennent les luttes récentes gagnées. C'est qu'au fond, elles ne sont gagnées que parce qu'il y a un imaginaire, une pratique, une forme d'organisation qui ont permis de construire... de construire des victoires. Alors, une victoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a forcément complètement changé le monde. Ça veut dire qu'on a passé un cliquet et qu'on a obtenu un résultat qui était un résultat qu'on cherchait à obtenir. Et dans ce sens-là, je pense que c'est pas... On peut pas considérer que l'action soit une perte de temps, quoi, ou une perte d'énergie, je pense. Ça fait partie du processus politique, en réalité. Je ne sais pas si j'avais très bien compris la question.
On va peut-être continuer cet après-midi, donc avec un focus un peu plus important sur Notre-Dame-des-Landes, donc avec Isabelle Frémaux et Sylvaine Bull, donc chercheuses, toutes les deux, militantes, voilà. Au moins pour Isabelle Frémaux. Donc celles et ceux qui veulent venir au restaurant avec nous, il n'y a pas de problème, il y a des places. Et donc rendez-vous à 2h, au même endroit. Et merci à tous les deux, Pierre Rado et Frédéric Sultan.